Le journal Loïc Barrière. À l'issue du référendum en Tunisie, Kais Saied estime que la nouvelle constitution va permettre de passer d'une situation de désespoir à une situation d'espoir. Après la publication des premières estimations, des centaines de personnes ont fêté la victoire du oui à Tunis lundi soir. La rencontre récente entre les présidents Macron et Sisi reflète l'excellente relation bilatérale franco-égyptienne. C'est ce qu'affirme à Radio Orient l'ambassadeur d'Égypte en France, Ala Eldin Youssef. Ces derniers jours, la marine marocaine a intercepté 359 migrants en Méditerranée et dans l'Atlantique. Enfin, en France, la NUPES proposera une grande loi sur le logement. Entretien avec Ercilia Soudet, députée de Seine-et-Marne. Kais Saied estime que les Tunisiens ont donné une leçon au monde, une leçon d'histoire. Pour le président tunisien, le référendum organisé lundi va permettre de passer d'une situation de désespoir à une situation d'espoir. Avant l'annonce des résultats officiels ce mardi, l'institut de sondage Sigma Conseil avait annoncé la victoire du oui lundi soir avec 92,3% des voix. Dès l'annonce de ces estimations, des centaines de partisans du président Kais Saied ont fêté la victoire du oui en se rendant sur l'avenue Bourguiba à Tunis. Quant à la participation électorale, elle a été plus forte que prévu, 27,54%. La plupart des partis d'opposition avaient appelé à boycotter le référendum. Le Front du Salut National, dont fait partie Ennahda, estime que 75% des Tunisiens ont refusé, je cite, de donner leur approbation au projet putschiste lancé il y a un an par Kais Saied. Retour sur la visite effectuée vendredi par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi à l'Élysée. Plusieurs sujets régionaux ont été évoqués, mais aussi la lutte contre le réchauffement climatique et la crise des exportations de céréales. Compte rendu de cette rencontre avec l'ambassadeur d'Égypte en France, Ala Eldin Youssef.
Je voudrais tout d'abord signaler que cette visite et la rencontre entre les deux présidents a reflété l'excellente relation bilatérale franco-égyptienne qui sont très denses dans presque tous les domaines, soit politiques, économiques, militaires, culturels. Les deux présidents maintiennent en fait un rythme régulier de discussions et des pourparlers et sur tous les sujets. Ils ont affirmé lors de la réunion à l'Élysée leur volonté commune de renforcer et d'approfondir le partenariat stratégique entre la France et l'Égypte, qui est, je pense, un pilier très important pour la stabilité au Moyen-Orient et aussi dans le continent africain. La rencontre a également été l'occasion d'échanges sur un certain nombre de dossiers régionaux, notamment les derniers développements de la question palestinienne et les moyens de relancer les processus de paix. Ils ont aussi abordé la situation dans les autres pays de la région, notamment la Libye, la Syrie et aussi le Liban. Et ils ont souligné l'importance de faire prévaloir une solution politique pour toutes ces crises d'une manière qui préserve l'unité et l'intégrité des territoires de ces pays. Et aussi, il y a un autre sujet que je pense était très important, qui a été évoqué durant les discussions, c'est les préparations pour la prochaine COP sur le traité des changements climatiques qui aura lieu au mois de novembre à Sharm el-Sheikh.
Et c'est très important pour l'Égypte, pays directement concerné par le changement climatique. On se souvient qu'il y avait eu un sommet de ce genre à Marrakech.
Tout à fait, je pense que c'était la COP 22. Mais il y avait aussi une des plus importantes COP était ici à Paris en 2015. Et il y avait beaucoup des engagements qui avaient été pris par les pays développés afin de soutenir la transition dans les pays en voie de développement vers les énergies renouvelables. Ce qu'on essaye de faire dans la prochaine COP est d'avoir la partie de la mise en œuvre de ces engagements, tout en prenant compte aussi des besoins et des soucis de tous les parties, soit pays développés ou pays en voie de développement. On va essayer d'avoir une COP très équilibrée entre les engagements de deux camps. Mais le but, je pense, tout le monde partage le même objectif, c'est de réduire les émissions et aussi de soutenir le processus de transition écologique et surtout dans le domaine d'économie verte.
Il a été question aussi de l'exportation des céréales en provenance d'Ukraine et de Russie. C'est un sujet important aussi pour les Égyptiens.
Bien sûr, et je vous remercie de m'avoir appelé. C'était aussi un autre sujet qui a été discuté durant l'entretien entre les deux présidents. L'Égypte salue la position du président Macron en tant qu'ancien président de l'Union européenne quand il a lancé cette initiative FARM pour soutenir les pays qui ont été affectés par la crise ukrainienne et qui a des répercussions, bien sûr, sur la sécurité alimentaire de beaucoup de pays, surtout dans notre région, soit de Moyen-Orient ou dans l'Afrique. Et bien sûr, l'Égypte figure parmi ces pays les plus affectés, puisque on importe 80% de nos besoins de blé de la Russie et de l'Ukraine. Et bien sûr, ces importations ont été perturbées à cause de la guerre en Ukraine. Et nous soutenons l'initiative lancée par le président Macron d'aider les pays qui ont été affectés par leur fournir beaucoup ou plus de blé dans le marché et d'essayer aussi de soutenir la production nationale du blé.
L'ambassadeur d'Égypte en France, Ala Eldin Youssef. Au Maroc, deux femmes sont décédées par asphyxie après un nouvel incendie de forêt dans la province de Larache, dans le nord du royaume. Ces décès portent à 4 le nombre de personnes qui ont trouvé la mort à cause des feux dans le nord du royaume depuis la mi-juillet. La marine marocaine a intercepté entre samedi et lundi 359 migrants en Méditerranée et dans l'Atlantique. Certains étaient à bord d'embarcations de fortune, de kayaks ou bien nageaient dans la mer. La plupart sont originaires d'Afrique subsaharienne. Parmi eux se trouvent 10 femmes et 4 enfants. Il y a quelques jours, la députée NUPES Ercilia Soudet a déposé un amendement pour geler les loyers, amendement rejeté par la majorité, mais la députée de la 7e circonscription de Seine-et-Marne annonce que la NUPES déposera une proposition de loi pour lutter contre le mal-logement, un sujet auquel elle a été sensibilisée en militant dans sa ville de Lagny-sur-Marne. On écoute Ercilia Soudet.
C'est un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années et qui m'a un peu trouvée, si je puis dire, parce qu'en fait, à un moment donné, quand je faisais une action militante avec des camarades insoumis à la gare de Lagny-sur-Marne, j'ai rencontré un habitant de la résidence Rothschild qui m'a expliqué en fait sa situation. Voilà, donc il parlait des nuisibles qui envahissaient son logement. On a été touchés et on a voulu en savoir plus. On s'est rendu sur place et on s'est rendu compte vraiment de la situation désastreuse dans laquelle était cette résidence. Il y avait simplement ces nuisibles dont il parlait, mais il y avait aussi un vrai problème au niveau de l'humidité. Les pièces humides étaient remplies de champignons et puis on avait même des murs qui menaçaient de s'effondrer. On avait aussi donc des caves qui étaient rendues complètement inaccessibles parce qu'en fait elles étaient remplies d'eau et il y avait des fils électriques qui pendouillaient dedans, donc c'était vraiment dangereux. Et donc voilà, on s'est battu avec lui pour qu'il puisse monter un collectif pour lutter contre son bailleur qui avait promis à l'origine de détruire la résidence pour les reloger ailleurs et qui finalement était revenu sur ses propos, qui ne voulait pas rénover le logement. Et voilà. Et puis on avait aussi mis la pression sur la mairie aussi, qui en fait estimait ne pas avoir à s'en occuper, alors que concrètement c'est vraiment du devoir du maire de s'assurer que tous ses administrés sont logés correctement.
Et cette situation que vous avez pu observer à Lagny-sur-Marne, elle se reproduit dans toute la France ?
Alors, en tout cas, oui, ce que j'ai pu observer clairement, parce que effectivement, au début, c'est parti d'une situation particulière, et en fait, à partir de là, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de beaucoup plus général. Le fait d'avoir fait ce combat, ça a incité pas mal de gens justement à nous solliciter, et donc en fait, on s'est rendu compte que la plupart des logements sociaux, en tout cas, étaient dans ce cas-là. Déjà pour commencer. Alors, le vrai problème, c'est que les bailleurs sociaux, l'aide que leur apporte l'État est de plus en plus faible. Comme l'a dit, justement un maire que j'ai vu hier, les bailleurs sociaux sont aussi de moins en moins sociaux. Ils sont plutôt là pour faire, finalement, pour faire de la gestion. Donc voilà, ils cherchent juste à finalement quelque part à loger les gens avec les moyens qu'ils ont, mais sans forcément chercher à ce que ce soit digne en fait. Et donc finalement, c'est comme ça que j'ai été amenée à avoir pas mal de dossiers un peu du même genre. Donc notamment dans ma circonscription, si je m'attache à ma circonscription en particulier, c'est aussi bien à Lagny-sur-Marne qu'à Vitry-Maury, qu'à Villeparisis, qu'à Lamartin, enfin voilà. On retrouve toujours ce même souci. Alors après là, je parle des logements sociaux, mais même dans le logement privé, le problème du logement privé aussi, c'est que voilà, on a un problème de loyer extrêmement cher, et à côté de ça, des bailleurs privés qui sont là pour engranger souvent de l'argent, mais du coup, sans chercher forcément à rénover le bâti non plus.
Et lorsque vous avez pris la parole à l'Assemblée nationale, vous avez rappelé votre propre expérience, l'impossibilité de louer dans le privé auprès des agences immobilières.
J'ai évoqué ma situation personnelle, alors non pas tellement pour raconter ma vie, mais plutôt pour montrer que finalement cette difficulté à se loger, elle est vraiment prégnante dans notre société, et pour beaucoup de classes sociales en fait. C'est même pas seulement les plus défavorisés qui peinent à se loger. On a quand même, comme je l'ai dit, donc plus de 12 millions de personnes qui ont des difficultés à se loger dans notre pays, ce qui prouve quand même que ça regroupe vraiment beaucoup de personnes. Le souci en fait, c'est que quand on veut se loger dans le privé, on nous demande de gagner donc 3 fois le loyer, etc. Mais on nous demande aussi une situation stable. Donc ça veut dire que par exemple, si on a un CDD, si on est chômeur à un moment donné, même si on peut toucher un bon chômage. En fait, ça, on ne rentre pas dans les cases. C'est à ce titre-là que j'ai évoqué mon exemple personnel. Mais j'aurais pu en évoquer plein d'autres, en fait.
Vous avez souhaité limiter la hausse des loyers. Cet amendement a été rejeté par la majorité. Vous allez à nouveau faire ce type de proposition dans les 5 ans qui viennent?
Alors oui, d'autant qu'en fait on prévoit clairement de proposer une grande loi sur le logement. Parce que bon là évidemment on a essayé d'intégrer des amendements qui touchent à la question du logement parce qu'on pense que c'est une question vraiment essentielle. On pense que parmi le droit à un logement digne, ça fait partie vraiment des droits les plus fondamentaux. Donc c'est pour ça que dès qu'on en a l'occasion, on rappelle l'importance de ce droit fondamental, mais on envisage de proposer une grande loi sur le logement. Qui aborde vraiment toutes les problématiques qu'il peut y avoir sur ce sujet-là. Parce que là, évidemment, on a parlé du problème de la hausse des loyers, mais en fait, il y a pas mal d'autres points à mettre à l'ordre du jour. Enfin, par exemple, la question des logements vacants est essentielle. Le fait de lutter contre les logements vacants, c'est impensable qu'il y ait à ce jour autant de logements vacants, alors qu'il y a énormément de personnes à la rue.
Il faudra aussi construire davantage de logements sociaux. C'était dans le programme de la NUPES.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il manque actuellement 1 million de logements sociaux. Et c'est pour ça que dans notre programme, à l'origine, on proposait donc d'en créer 200 000 par an sur le quinquennat. C'était pour nous le seul moyen de pouvoir remédier à ce problème le plus rapidement possible. Donc effectivement, ça fera partie de nos propositions.
Vous avez bon espoir d'être entendu par le nouveau ministre du Logement?
Alors, en tout cas, bon espoir, je sais pas, mais en tout cas, nous, on va tout faire pour qu'il nous entende, voilà. C'est-à-dire que, on se dit des fois, voilà, que parfois, ça peut arriver qu'on finisse par se faire entendre à force de le répéter. Enfin, comment dire, c'est un peu la méthode du marteau-piqueur, c'est-à-dire que faut répéter. C'est comme ça qu'on a fini par obtenir la déconjugalisation de l'AAH, donc on se dit que peut-être qu'un jour, on pourra aussi être entendu sur la question du logement.
Ercilia Soudet, députée de la 7e circonscription de Seine-et-Marne. Les pays de l'Union européenne approuvent un plan de réduction coordonnée de leur consommation de gaz pour réduire leur dépendance envers la Russie. Une mesure annoncée alors que Gazprom annonce une réduction des livraisons de gaz russe à l'Europe. Attention, si vous prenez l'avion ce mercredi, Lufthansa annule la quasi-totalité de ses vols en Allemagne. Des annulations et retards sont possibles aussi jeudi et vendredi. La compagnie est en grève. Une partie du personnel réclame des hausses de salaire. Deux hommes tués par arme à feu lundi soir à Marseille. Le premier, âgé de 30 ans, a été retrouvé sans vie dans le quartier de la Belle de Mai. Il a été atteint par 7 balles. Le deuxième homme a été découvert dans le quartier des Arnavaux. Il aurait été pris pour cible par plusieurs individus alors qu'il circulait à scooter. Un hommage au père Jacques Hamel ce mardi matin à Saint-Étienne-du-Rouvray, cérémonie organisée 6 ans après l'assassinat du prêtre, égorgé le 26 juillet 2016 par des terroristes islamistes. Enfin, un nouveau féminicide en France. Une femme de 51 ans a été tuée à coups de couteau sur le parking de son lieu de travail à Cavaillon, dans le Vaucluse. L'auteur des coups mortels et son compagnon avec lequel elle était en instance de séparation. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.